Vous écoutez Radio Zinzine et une nouvelle émission des Calottes sont cuites. Nous sommes à Château Arnoux, au Théâtre Durance, avec Frédéric Ferrer, pour parler de la pièce « Comment Nicole a tout pété ?», une histoire de mine et de climat dans le centre de la France. Y sont abordées diverses questions liées au climat et autres problématiques écologiques.
Oui, alors Frédéric, tu présentes, tu étais vraiment un spécialiste du seul en scène, et à un moment que tu en fais sur des sujets très différents, mais qui ont un fil conducteur écologiste, on peut dire. Et cette fois, tu t'attaques à un projet de lithium où c'est plus complexe la question, parce que ça a un volet soi-disant écolo et un volet qui inquiète au niveau de ce qu'on appelle l'extractivisme.
Oui, oui. Alors, je ne fais pas que des seuls en scène. C'est, en fait, dans la compagnie, depuis l'origine, en fait, les seuls en scène sont arrivés même plus tard. Ça a toujours été des spectacles, on va dire, classiques de théâtre avec une équipe au plateau de 4, 5 ou 6 acteurs. Et puis, en fonction des projets, donc il y avait des équipes plus ou moins lourdes. Et puis, par ailleurs, parallèlement, j'ai commencé tout un cycle qui s'appelle les cartographies de l'Atlas de l'Anthropocène, où là, j'étais seul en scène, en effet, et où je prenais des questions, vraiment à chaque fois une question située géographiquement et qui pose des questions qui mettent en jeu notre modernité anthropocénique entre et tous les problèmes qui sont liés à la surexploitation des océans, la surexploitation, mais c'est pas que le changement climatique, bon, tout un tas d'écocides que nous mettons en place, etc., auxquels je me suis intéressé. Donc je suis allé à la recherche de canards en plastique, j'ai poursuivi des moustiques, voilà, dans leur localisation, etc., toutes les questions que ça peut poser. Par ailleurs, sur des grandes formes, je me suis intéressé aux négociations climatiques de l'ONU, que j'avais mis en scène, dans un spectacle qui s'appelait Kyoto Forever 2, avec une équipe nombreuse de comédiens. Je dis ça parce qu'il y en a deux qui sont là encore ce soir, qui prenaient en charge chacun. Ils étaient chacun originaires d'un pays qui est autour de la table des négociations de l'ONU. Donc j'avais un Brésilien, une Américaine, une Russe, etc. Il y a quelques années, j'ai commencé un autre cycle qui s'appelle, je vous dis tout ça rapidement, mais qui s'appelle Borderlines Investigation, et c'est un cycle qui explore en fait les limites, la question des limites, des limites planétaires, la question, la question des limites planétaires, donc de l'effondrement des écosystèmes, la question peut-être de l'effondrement même de notre civilisation, des difficultés de réponse, de comment s'attaquer aussi aux émissions de dioxyde de carbone, comment réduire les émissions de dioxyde de carbone, voilà. Et pour ce nouveau projet, donc tout ça on pourra en parler pendant longtemps, parce que ça fait 20 ans que je suis sur ces questions-là.
En plus, tu as une formation de géographe aussi.
Ouais, ouais. Et pour ce nouveau projet-là, en fait, j'étais parti pas du tout sur le sujet que vous allez voir ce soir, j'étais parti sur autre chose à l'origine, parce que j'étais parti sur... je voulais faire un autre spectacle qui questionne les négociations climatiques, parce que je voulais faire 10 ans après celui que j'avais déjà fait. Je l'avais fait pendant la COP21 de Paris. Et je voulais faire 10 ans après, au moment où BLM va ouvrir, là, à l'ONU, où on en est dans la coordination internationale et où on en est dans l'accord de Paris, qu'est-ce qui a été fait depuis 10 ans, en fait, est-ce qu'il est appliqué, pas appliqué, etc. Et je voulais faire comme ça parce que je trouvais que c'était assez symbolique le fait que cette prochaine COP de l'ONU se fasse dans la forêt amazonienne. Bon, voilà. Et les réalités du financement de la culture aujourd'hui fait que je ne pouvais pas réunir la même équipe aussi nombreuse. Donc j'ai changé entre-temps mon sujet. Et il se trouve, je me suis dit que j'allais plutôt traiter de l'évolution du climat, depuis l'origine des climats sur Terre jusqu'à la fin du climat. Je voulais essayer de donner une forme théâtrale à un discours scientifique sur comment le climat évolue dans le temps, en fait, bien au-delà et bien en deçà de l'échelle humaine. Et puis en m'intéressant à tout ça, j'étais là-dedans. Et puis il y a un an et demi, donc moi j'habite depuis 10 ans à Montluçon, dans l'Allier. Et il y a un an et demi, j'ai pris connaissance de l'existence de ce projet de mine de lithium, qui est le plus grand projet français, un grand projet européen structurant de mine de lithium, qui est dans l'Allier, dans la ville des Chassières. Et pour lequel il y a une multinationale qui va exploiter le lithium là, qui va permettre à la France de réduire ses émissions de dioxyde de carbone, de s'engager dans la décarbonation, de tous les discours là qui sont tenus, de réduire les voilà, je vous l'ai dit, de réduire les émissions. Bon, voilà. Et pour ce projet, le gouvernement français, l'État français, a mis en place un débat participatif. Prise en charge par la Commission nationale du débat participatif. Et donc il y a eu dans ma région, feu ma région, parce que pas feu ma région, elle n'a pas disparu, mais je viens de déménager, donc j'y habite plus cet été. Il y a eu pendant 6 mois des débats qui ont été organisés dans toutes les villes, dans toutes les communes rurales qui vont être impactées par le. Qui vont être concernées par le projet. Parce que il y a une mine, mais il n'y a pas qu'une mine. Il y a une usine de concentration du minerai qui va donner du mica. On n'a pas encore du lithium. Puis ensuite, il y a une usine de conversion à Montluçon. Il faut une station de chargement au bord de. Bon, il y a tout un tas d'infrastructures qui vont devoir être créées. Et donc, ils ont voulu mettre en place un débat participatif autour de ces questions-là. Et donc, il y a plein de réunions qui ont été organisées. Et ces réunions, elles ont toutes été filmées, enregistrées. Et donc moi, j'ai eu accès, elles sont accessibles à tout le monde, hein, elles sont sur Internet. Et c'est vraiment le cas de le dire, c'est une mine de choses incroyables. Incroyables parce que là-dedans, on a tout. On a, donc c'est des réunions à 300-400 personnes dans une salle des fêtes d'une commune. Qui va être sur tel sujet, parce qu'il y a une vingtaine de réunions, sur tel sujet, par exemple sur la station de chargement ou bien sur l'exploitation du minerai. Là, vous avez les ingénieurs de la société minière, la multinationale minière européenne, qui vont répondre aux questions, voilà, qui sont là pour écouter, pour entendre, pour amender leur projet, pour le modifier aussi, si besoin. Il y a les gens de la Commission nationale du débat participatif qui donnent la parole, etc. Et puis il y a les habitants en face, qui vont poser des questions. Et donc les gens de la société minière, ils viennent pour dire comment ils pourraient faire leur mine, et les autres en face, ils sont plus dans mais pourquoi on fait une mine de lithium, mais est-ce que ça va vraiment servir la décarbonation, comment, mais c'est quoi votre projet en fait, et puis qui sont très affectés par l'ensemble des infrastructures, parce qu'on connaît les conséquences des mines partout dans le monde. Pollution des eaux, pollution des terres, impacts environnementaux qu'on n'arrive même pas à estimer tellement ça s'étale sur des dizaines voire des siècles, puisque là on est en train en France de gérer encore des pollutions liées à des mines de l'Empire romain. Donc après, moi j'ai travaillé après avec une chercheuse.
Alors les questions perplexes ou rétives comme ça, elles étaient plutôt majoritaires?
C'est très difficile à dire parce que ceux qui sont très contre ces mines, donc l'association Stop Mine, l'association de Préservons la forêt des Colettes, qui est une forêt classée Natura 2000 dans laquelle il y a plein d'espèces animales, etc., ils sont très contre et ils vont prendre la parole très facilement comme n'importe quel militant. Donc ils vont prendre la parole facilement, donc on les entend bien. Puis après, il y en a d'autres qui vont la prendre moins. Je pense qu'il y a beaucoup d'habitants. C'est complexe parce que, par exemple, dans les années 60, le Parti communiste, les forces de gauche, voulaient une mine du lithium.
Le prolétariat.
Pour le travail, pour l'emploi. Et encore aujourd'hui, des fois, le responsable de la CGT, il n'était pas clair, quoi. Enfin, c'est pas qu'il n'était pas clair, il disait, mais en même temps, c'est bien, on a un bassin d'emploi qui est en crise. Ces mines, ça va créer de l'emploi. Si on le fait de manière intelligente, ça peut en plus aider la décarbonation. Pourquoi on serait contre ? Et puis il y en a d'autres qui disent, dans la population, qui disent, oui, mais c'est pour quels usages du lithium ? Parce que si c'est pour... Bah, tout ça, on va brasser tous ces arguments sur scène là tout à l'heure, mais si c'est pour alimenter finalement des modèles de croissance qui sont insoutenables, ça peut pas marcher. Enfin,
oui, et puis il y a la question de la santé. On sait que souvent, il y a des problèmes de graves problèmes de santé autour des mines.
Voilà, exactement. Exactement. Bah, tout ça, on va l'aborder aussi. Enfin, ça reste un spectacle. Donc, c'est ça qu'on a fait. En fait, j'ai voulu... donc, ce projet, je l'ai complètement fait... Je l'ai... Pardon, je parle vite, là. Et puis, mais c'est... Ce projet, je l'ai complètement changé un tout petit peu. Puis, je me suis dit que c'était trop beau, ce qui se passait, quoi. Parce qu'il y avait des enjeux très contradictoires. Parce qu'on avait... Dans une toute petite communauté, dans une toute petite espace du territoire français, on a un enjeu mondial, celui de la décarbonation, un enjeu sociétal, un enjeu humain, comment sortir des émissions de dioxyde de carbone, qui passe par donc les mobilités douces, qui passe par l'électrification, etc. Donc mettre ces enjeux-là, et en même temps, on a l'échelon local qui se joue aussi. Il y a les gens qui vont être affectés par la mine. Là, il y a la dame qui a acheté sa maison il n'y a pas longtemps, qui a un crédit sur le dos et la maison ne vaut plus rien. Il y a ces enjeux-là aussi. Et pourquoi la mine, elle serait chez nous et pas ailleurs ? Et dans ce cas-là, la mine, d'accord, parce qu'en face, ils sont retors, parce qu'en face, ils vont dire, oui, mais madame, cette mine, si on... Alors, vous ne voulez pas qu'on la fasse chez vous, donc vous préférez que ce soit des enfants au Congo, c'est ça, en fait. C'est ça, les arguments en face. Donc il faut pouvoir répondre à ce genre d'argument, quoi. Et donc et les autres, ils allaient sur les arguments, ben oui, mais le problème, c'est que votre exploitation minière, c'est une politique extractiviste où le but, c'est d'en faire le plus possible. Pourquoi on réfléchirait pas d'abord aux usages du lithium? Pourquoi faire? Si c'est pour faire des SUV de 3 tonnes, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc c'est tout ça qui a été... Et donc c'était magnifique, ce débat, parce qu'on avait la petite échelle, la grande échelle, le local, le global... Tout qui se mélange, la vie privée, et puis des rebattages de cartes électorales aussi, parce que parfois la critique écologiste et la critique de gauche ne se retrouvaient pas trop, parce que la gauche parfois était sur ça peut recréer de l'emploi, oui, voilà. Et là, c'est vraiment intéressant aussi ce qui se joue là, parce qu'en effet, on ne peut pas construire un écologisme qui ne soit pas ancré socialement aussi, quoi. C'est pas possible. Donc il y avait plein de choses comme ça qui étaient passionnantes, quoi. Donc je me suis dit qu'on allait tenter de mettre en scène un débat. Et dans tous mes spectacles, juste pour conclure là-dessus, donc j'ai voulu donner à ce spectacle une forme de débat participatif, public. Vous allez voir, vous allez voir. Et je voulais aussi adopter le même type de traitement que j'ai dans mes autres projets, c'est-à-dire aussi adopter un traitement qui soit tout le temps décalé, un peu absurde, qu'on puisse, même si tout ce qu'on dit est tout le temps juste, parce que mon travail repose là-dessus, c'est que de l'écriture documentaire, donc tout est vérifiable, enfin, on part de documents réels, quoi. Mais qu'on puisse rire aussi de tout ça, pour mettre à distance, et pour pas apitoyer, pour pas avoir un discours moralisateur ou un discours oui, l'extractivisme, c'est mal, mais qu'on le pense autrement, quoi. Voilà, qu'on le regarde autrement, quoi. Que peut-être qu'à la fin on peut penser ça, mais si on le pense, on y est arrivé par un autre bout que une démonstration universitaire, quoi. De prendre d'autres chemins qui permettent d'accéder à ça, quoi. Plus sensible, etc. Thank you.
Nous sommes toujours avec Frédéric Ferrer de la compagnie Verticale des Tours pour parler de la pièce « Comment Nicole a tout pété » et divers autres projets. Oui, donc il y a plein de documents auxquels vous faites appel pour construire. Donc il y a toute une structure derrière qui est aussi scientifique. Et bon, votre site, on invite les auditeurs, auditrices à aller regarder le site, hein, qui est très chouette. Vous pouvez voter pour votre meilleure exoplanète, c'est ça?
Qui s'appelle
Qui s'appelle verticaldestours.fr.
Ouais,
.fr. Et en fait, il y a une phrase qui m'a... Parce qu'il y a toute la question autour de l'inspiration. Donc, je regardais la présentation de Kyoto Forever 2 et vous parlez du ballet sans cesse recommencé des experts. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant de comment rester motivé quand on est face à des problématiques comme ça, parce qu'on le sait bien, hein, à force de toucher des problèmes, des sujets qui sont... Et quand on regarde, par exemple, Valérie Masson-Delmotte ou des gens qui sont experts là-dedans et qui ne perdent pas leur inspiration, ben, moi, j'ai envie de poser la question, comment est-ce que vous restez inspiré et comment vous arrivez à en rire et comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là?
Ben, en fait, inspiré, oui, parce qu'en fait, bon, je le dis de manière un peu provocatrice, parce que en fait, le changement climatique, c'est vraiment génial, au sens où ça rebat toutes les cartes. Pour un dramaturge, c'est vraiment génial. Pour un auteur, c'est génial parce que c'est que des questions nouvelles qu'on ne s'était pas posées avant. Donc, c'est un monde nouveau dans lequel on est en train de rentrer, qui est un monde qui ne va pas être facile, terrible même, très terrible, mais qui nous oblige à sortir de tous les schémas de pensée qu'on avait, qui est une formidable invitation à penser, écrire, trouver des récits nouveaux, voilà. Donc c'est presque, si vous voulez, moi face à ça, j'ai aucune envie de monter Molière ou Shakespeare, quoi. Ça m'amuse beaucoup plus de prendre la matière d'aujourd'hui et de la mettre sur le plateau, parce qu'elle pose tellement de questions que Molière et Shakespeare ne pouvaient pas se poser, puisque c'était pas leur temps, c'était pas leur réalité. Après, c'est très beau, Molière et Shakespeare, mais on ne peut pas leur faire dire des choses qu'ils ne pouvaient pas...
Donc voilà. Ouais. Mais par contre, on peut retrouver du Molière et du Shakespeare dans la méthode, dans la manière d'eux.
En tous les cas, ce que je sais, c'est que les Grecs, ils mettaient leurs problèmes de guerre sur un plateau. Donc ils partaient déjà de ça. C'est-à-dire que le théâtre, s'il peut encore servir à quelque chose, c'est peut-être aussi ça, c'est mettre en jeu des questions qui nous intéressent, nous, aujourd'hui, quoi. Donc les envies et les désirs de nouveaux projets, ça manque pas, vu que le changement climatique et la crise que nous traversons écologique, elle est tellement monumentale que les questions ne manquent pas. Dès qu'on s'intéresse à une espèce, on voit qu'il y a un problème, en fait. Donc ça peut être passionnant. Et alors après, le regard, comment en rire et tout ça, ça c'est pas, mon objectif n'est pas en rire, mais c'est juste que c'est ma manière de moi d'appréhender ces choses-là. C'est-à-dire que c'est... Quel que soit le sujet qu'on prend, on peut le traiter de plein de manières différentes. On peut chercher l'empathie, on peut chercher la catharsis, on peut chercher la tragédie, on peut chercher, mais par exemple, voilà, le positionnement moral, etc. Et on peut aussi en faire une comédie burlesque, tout en traitant du même sujet. Et moi, finalement, il se trouve que, par exemple, dans le cinéma, de tous les films qui se sont intéressés au risque atomique, celui qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune, etc., et qui a été auquel je suis tout le temps revenu, celui qui m'a fait le plus réfléchir, c'est une comédie complètement déjantée, c'est Doctor Strangelove de Stanley Kubrick, qui parle du risque atomique, mais de manière tellement décalée, joyeuse, foutraque, que ça me touche moi aussi. Enfin, je ris et en même temps, je vois bien les dangers. Je vois bien les enjeux. Ça ne m'empêche pas de comprendre la réalité de la bombe atomique. Autant qu'une autre pièce qui l'aurait traitée d'une autre manière. D'un autre film qui l'aurait traitée d'une autre manière. Donc voilà. Donc moi, je suis plus attiré par ces... On va dire par cette... ce traitement-là des sujets qui me permet de trouver... voilà, j'aime aussi les univers de Jacques Tati, tout ça, mais de trouver les côtés parfois absurdes des choses... du réel, quoi, et de les regarder, de mettre un peu de la distance, bah c'est ça la pratique artistique, c'est mettre un peu de distance sur ce qu'on voit pour le voir autrement, justement, quoi.
On va rappeler quand même qu'on parle de la pièce « Comment Nicole a tout pété », donc de la compagnie verticale des Tours. Et c'est quand même, il y a eu la première hier. Alors hier, on était le 9 octobre.
2025.
Et donc, vous êtes en tournée, pas seulement avec cette pièce-là, mais si j'ai bien compris, il y a plusieurs projets qui sont en mouvement en ce moment.
Donc il y a cette pièce-là qui est la nouvelle pièce donc qu'on va tourner, qui est l'actualité. La semaine prochaine, on joue à Marseille et à Gap. Et parallèlement, les autres pièces que j'ai faites continuent de tourner aussi. On a un répertoire dans la compagnie des pièces anciennes. Mes toutes premières pièces sur le changement climatique que j'ai créées je l'ai créée en 2005, mais là, j'en ai quelques-unes. Il y en a une qui s'appelle « À la recherche du canard perdu ». Elle a été créée en 2010, elle tourne toujours, on est en 2025. Donc c'est un répertoire comme ça, de formes plus légères, qui sont un peu plus tout-terrain. Parce que là, ce que vous allez voir ce soir, il faut vraiment un théâtre pour le faire, parce que ça nécessite de la place.
Donc, ce soir, on est au théâtre de la Durance.
Oui, théâtre Durance.
Durance.
Ouais, à Château Arnoux.
À Château Arnoux, voilà. Et oui, donc il y a d'autres pièces. Il y en a notamment la cartographie 7 que j'avais présentée ici l'année dernière, ou il y a deux ans, je ne sais plus, qui s'appelle « Le problème lapin ». Que j'avais présenté ici et qui...
Ça a fait beaucoup jaser, c'est quoi en deux mots ?
Le problème lapin, c'est le pitch de ce spectacle, c'est que le lapin se comporte comme une espèce, est une espèce invasive, partout où on l'a emmené en fait. L'humanité a amené les lapins en Australie, a amené les lapins à différents endroits du monde, et à chaque fois le lapin s'est comporté comme une espèce invasive, destructrice de l'environnement, il mange tout en fait, et qui pose des problèmes à Homo sapiens. Voilà. Donc c'est une espèce invasive qui détruit tout et qui est ultra fragile par ailleurs, mais qui dans certains endroits peut s'avérer être une espèce qu'on peut regarder comme étant pas destructrice de l'environnement, pour ceux qui la regardent comme étant une espèce destructrice de l'environnement. Et donc ça m'a intéressé, cette chose-là, parce que j'étais tombé sur un article en fait, d'un scientifique qui travaillait sur les îles Kerguelen et qui disait qu'il faut détruire tous les lapins, ils sont en train de manger tous les écosystèmes qui sont ultra fragiles là-bas. Donc ils ont lancé des vastes plans de destruction de tous les lapins de ces îles. Et puis je tombe sur un autre article quelques mois plus tard où ils disent, de scientifiques aussi du CNRS, où ils disent qu'il faut tout arrêter, il faut protéger tous les lapins. Parce qu'ils sont en train de manger une plante invasive. Voilà. Et donc je me suis dit, mais alors il y a une espèce qui détruit tout, qui est invasive, que l'humanité regarde comme ça, comme étant destructrice invasive, et qui, par ailleurs, finalement, s'avère être positive dans le regard humain. Donc en fait, tout n'est pas joué, ça peut s'inverser. Et puis, l'humanité, on a un comportement un peu sensiblement égal, c'est-à-dire nous aussi on est invasifs, nous aussi on est destructeurs, donc il y avait trop de parallèles pour que je prenne pas le prisme du lapin pour interroger notre présence à nous sur Terre, quoi, comment on se comporte. Et donc le lapin, c'est une espèce d'abécédaire, d'extrapolation sur le lapin en 30 questions et tous les problèmes qu'il pose. Et comment on peut, et mine de rien dans le spectacle, on rentre dans ce qu'est une espèce animale, ce qu'est un lapin, comment il vit, etc. On se met, comme Deleuze avec sa tique, on se met à la place, on essaye de rentrer dans le lapin, quoi, pour voir comment il voit le monde, quoi, à partir du lapin. Voilà. Et c'est un spectacle à deux, cette fois-ci, et qui est très, très décalé, très drôle.
Et donc, qui est dans donc, la série de projets que vous aviez mentionné, donc l'Atlas de l'Anthropocène.
Ouais.
Et vous avez donc aussi d'autres choses qui tournent aussi en même temps, ou je me suis peut-être trompée ?
J'en ai d'autres, oui, je crois qu'il y en a d'autres qui tournent en même temps. Je ne les ai plus en tête là, mais cette année, il y a pas mal de spectacles. Il y a les autres cartographies, oui, je crois que je vais faire celle sur le climato-scepticisme qui s'appelle Les Vikings et les satellites. Je crois que je vais en faire une sur celle que j'avais créée sur les exoplanètes, justement. Je crois que je vais la rejouer aussi, celle-là, qui s'appelle Wow.
Les Jeux Olympiques, ça risque d'être à nouveau.
Cette année, j'en ai qu'un qui tourne sur les Jeux Olympiques, c'est sur le ping-pong justement, mais c'était celui que j'avais joué à Sigons.
Ouais.
Sur le ping-pong, c'est génial aussi le ping-pong, parce que ça, le tennis de table, ça met en jeu le monde entier aussi à travers la diplomatie du ping-pong. Mais ça, c'est des formes solo en fait, donc c'est des formes qui sont liées à vraiment à l'art de la conférence, l'art de l'art oratoire.
Climato-scepticisme, est-ce que justement là ça devient intéressant parce qu'on peut être rentre dedans avec un public, j'espère qu'il y a des climato-sceptiques qui viennent, est-ce qu'il y a une chance que ça fasse bouger les lignes ?
Si les en général les climato-sceptiques, y en a certains qui peuvent aller qui aiment bien aller dans les réunions publiques justement pour prendre la parole. Je sais pas si ça peut faire bouger les lignes, j'en sais rien. Moi, franchement, j'en sais rien. Ce que j'essaye de faire, c'est de... Là, je pense que les gens qui vont, par exemple, venir voir ce spectacle ce soir, je sais qu'ils vont apprendre des choses sur le lithium et sur la mine. Comme nous, on en a appris beaucoup en travaillant sur cette thématique, en enquêtant, en rencontrant les gens qui luttent sur place, en allant dans les discours scientifiques et tout ça. Après, est-ce que ça change ? Après, là, c'est un vaste sujet, parce que tous les publics ne vont... Tout le monde ne va pas au théâtre. Qui va au théâtre ? Enfin, il y a toutes ces questions-là qu'il faudrait aussi aborder.
C'est rare qu'on change d'un coup aussi. On change normalement par petites touches.
Oui. Mais là, on aborde sur la mobilité individuelle, parce qu'on a choisi une société... Enfin, on a construit une société où il y a une mobilité individuelle, hein, avec les voitures. Je pense qu'on va aborder des sujets là qui peuvent vraiment être... concerner, quoi, faire réfléchir sur comment on se déplace, quoi, soi-même, et quelle voiture on a choisi, tout ça, je pense.
Donc c'est une pièce qui tourne déjà, il y a plusieurs dates, même jusqu'en 2026, donc on invite vraiment, c'est verticaldetour.fr. Donc, la compagnie Verticale des Tours a aussi des projets de fabrique artistique.
Oui.
Donc, j'ai rapidement regardé les anciennes cuisines, le vaisseau. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu des fabriques artistiques? En quoi ça consiste et c'est quoi ces deux grands projets?
Alors, c'est pas un projet, c'est vraiment... c'est un projet. Oui, si, c'est un projet, mais c'est un... Il y a la compagnie qui fabrique les spectacles et qui les diffuse. Et puis, parallèlement, donc, la compagnie Verticale des Tours, depuis sa création... s'est implantée à chaque fois sur les territoires où elle était. Voilà, et on a monté avec la compagnie, on a monté deux lieux. Deux lieux qui nous permettent de répéter et fabriquer nos spectacles. Deux lieux successivement, jamais en même temps bien sûr. Et le premier lieu que j'ai pu monter, c'était dans un hôpital psychiatrique à Ville-Évrard, où il y avait Antonin Artaud et Camille Claudel. Et là, j'ai disposé pendant 10 ans d'un bâtiment qui m'a permis de fabriquer mes spectacles, les répéter, travailler avec les patients, travailler avec les personnels en psy, etc. Et comme celui était grand, on a décidé de le partager avec d'autres compagnies qu'on a fait venir, qu'on a invité, parce que les artistes sont toujours à la recherche de lieux de travail. Et donc c'est devenu petit à petit une fabrique artistique où on fabrique des spectacles et où d'autres compagnies viennent en théâtre, en danse, art de la rue, cirque, qui viennent répéter ici.
Et puis, résidences aussi.
Elles sont des résidences, voilà. Nous, on les accueille en résidence. Et puis, petit à petit, cette chose-là a fini par être reconnue. Et donc, on a été accompagné financièrement puis par le ministère de la Culture, la DRAC, la région. Et ce sont devenus des lieux labellisés fabrique de la culture. Parce qu'on accueille des artistes qui viennent fabriquer des spectacles. C'est ça, voilà. Et que les artistes, le temps de leur présence ici, mettent en place des actions avec les publics, de pratiques artistiques, d'échanges culturels, voilà. Donc ça, c'était le premier lieu. Ce lieu s'est arrêté en 2015. Et j'en ai ouvert un autre en Seine-et-Marne, cette fois-ci, dans le 77, dans un centre de réadaptation. Donc, il s'appelle Le Vaisseau, maintenant, ce lieu. Donc dans un centre de réadaptation où il y a des pathologies liées à... Il y a des amputés, il y a des grands brûlés, il y a des cérébraux lésés. On est sur des pathologies liées beaucoup à l'accidentologie. Voilà. Et donc avec des séjours qui sont vraiment différents de la psychiatrie. Et là, ils avaient un lieu, ils avaient une salle construite dans les années 70, une espèce de salle de conférence... pour inviter des experts en médecine, qui est très grande et que j'ai pu investir. Et donc depuis 10 ans, on met en place là-bas aussi une fabrique artistique où on accueille des artistes en théâtre, danse, art de la rue, cirque, et qui viennent fabriquer leur spectacle ici. Et donc nous, on met en place ça, on est accompagné par les tutelles de l'État, du département, de la région, pour les accompagner financièrement. Et ça permet... d'être, c'est ça ce qu'on appelle une fabrique de la culture, ça permet d'être des endroits de fabrication en fait, de l'art quoi, et des spectacles, de l'art vivant.
Et donc voilà. Le projet, le vaisseau, il est actif en ce moment?
Il est actif, il est tout à fait actif, depuis 2015 donc. Donc là on en est à la 10e année, et malheureusement il va s'arrêter dans 2 ou 3 ans parce que le centre va lui-même va fermer, parce qu'ils vont être délocalisés ailleurs, parce que c'est un ancien centre perdu un peu en milieu rural, dans la forêt, tout ça, puis ils vont se rapprocher ils vont aller à Melun, à Sénart, et donc ils vont avoir des bâtiments beaucoup plus modernes et tout ça, et donc tout le lieu qu'ils occupent aujourd'hui, dont le théâtre dans lequel nous on est, va être abandonné et je ne sais pas ce que ça va devenir. D'ailleurs, je pense qu'il y aura des projets ensuite de promoteurs pour peut-être, je ne sais pas, c'est un cadre magnifique, je ne sais pas ce qu'il y aura à la place, quoi.
Et c'est précipité de demander s'il y a une prochaine fabrique artistique qui arrive ?
Non, c'est pas précipité, on est en train de travailler à ça, on est en train de travailler à trouver un nouveau lieu et on est en plein dedans là. Donc on fait des rencontres. On voudrait rester dans le département parce qu'on a noué pas mal de liens avec ce département là parce que chaque été on fait de la diffusion au milieu rural de petites formes, dont les cartographies, dont celles que j'ai fait sur les Jeux Olympiques, où on va jouer dans les villages, et donc on a tissé tout un tas de relations avec des communautés de communes, des communes, etc. Et donc moi j'aimerais bien rester dans le 77, ça me va, dans Seine-et-Marne, ça me va bien, enfin je m'y sens bien en milieu rural là. Et puis Non, et puis c'est important d'être dans un endroit un peu... parce que je pense qu'on va vers des temps un peu compliqués dans le financement de la culture.
On va suivre ça.
Ouais. Super, Frédéric Ferrer, merci. Hein, parce que c'est rare qu'on interviewe quelqu'un juste avant un spectacle, parce que normalement, il faut se concentrer avant.
Oui. Et puis, bah, j'espère que ça va vous... surtout que ça va vous... vous plaire Merci. Aussi. Ouais. Voilà.
C'était l'émission Les calottes sont cuites de Radio Zinzine.